Ouais, quoi? Ouais, je l'ai, ouais, je l'ai. Ouais,
et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé l'année 2019. Une bonne année, et oui, c'est enfin la reprise d'Ecoforum. Alors ce soir, je vais être seule sur le plateau, mais bien sûr, on va avoir un invité par téléphone. C'est la première fois qu'on va faire une émission de ce style. Il n'est pas sur Marseille, on l'a déjà rencontré, il a fait une conférence dans les locaux de la mairie du 1er arrondissement, et on va lui téléphoner. Alors en fait, son projet, en quelques mots, c'est faire le tour des deux Amériques en 5 ans, en bateau à voile, pour sensibiliser la population par le biais des conférences et aller voir la mairie. Alors, on va lui téléphoner. Bonjour, on va téléphoner à Philippe Ben-Simon. Alors, une petite parenthèse, j'ai hormis ce détail, lancé dans la folie de reprendre les émissions. Maureen ne pourra pas venir ce soir, mon co-animateur de prédilection depuis 2 ans maintenant. Il va sûrement arrêter, mais bien sûr, il va faire une petite intervention pour vous dire au revoir. Et voilà. Bon, bah, une grande pensée pour lui. J'espère qu'il nous écoute et il peut bien sûr nous téléphoner à tout moment. Et vous aussi, intervenir pendant l'émission au 04 91 08 28 15. 08 28 15. Alors, on va avoir bientôt notre invité. Bonsoir, je suis en communication à l'heure actuelle avec Philippe Ben-Simon. Donc on a fait notre petite introduction. Bonsoir, vous êtes là ?
Bonsoir, absolument.
Ah, ça fait grand plaisir. Comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Bah, super bien, donc j'avais fait un micro-résumé. Donc c'était le projet de faire le tour des deux Amériques en 5 ans, en bateau à voile pour sensibiliser la population, donc à la fois par des conférences tous les 4 jours, et voir la mairie, la municipalité, tous les jours. C'est bien ça ?
Oui, peut-être même ferons-nous plus de conférences que cela. On va faire ce tour des deux Amériques sur 5 ans, avec vraiment un tour complet, avec passage des canaux de Patagonie, puis Antarctique, Arctique. Vraiment un tour très complet en navigation côtière, en visitant autant que possible un maximum de ports, avec pour but à la fois de la recherche scientifique et aussi un volet pédagogique très important. Vous l'avez souligné, donc des conférences, autant que faire se peut, une dans chaque port, et également des interventions dans les collèges et les lycées. Pour nous faire passer les messages aux jeunes, c'est important, la planète leur appartient en fait.
Oui, voilà, l'objectif principal de ce grand périple, c'est sensibiliser la population sur le désastre écologique qui est à l'heure actuelle sur le monde. Et surtout sur le milieu maritime.
Absolument. On a deux énormes soucis aujourd'hui. Le premier concerne la biodiversité marine. Vous le savez sans doute, 60% des espèces marines sont aujourd'hui menacées, voire gravement menacées. Et il se trouve que cette biodiversité marine nourrit aujourd'hui 1 milliard d'hommes. ce milliard d'hommes, vous, il est réduit à la famine, bien, malheureusement, on l'a constaté, se reconvertit dans des activités bien obligées, pas toujours nettes, ce qui crée de l'insécurité, des violences, des déstabilisations politiques. C'est une chose grave. Et ensuite, le deuxième très gros souci, bien, c'est le réchauffement climatique. On commence à en entendre parler pratiquement tous les jours de ce fameux réchauffement climatique. Excusez-moi.
Je sais rien. Vous allez bien?
Ce qu'on appelle un chat dans la gorge. Bon, j'espère que ça ne va pas m'empêcher de vous parler. Je dis que ce fameux réchauffement climatique
oui.
est beaucoup plus désastreux que la plupart des gens le pensent.
Prenez une petite pause si nécessaire. Hein. Oui, ce que vous disiez lors de la conférence, que c'était encore possible d'arrêter le processus. Et l'objectif était d'arrêter le processus à qu'on augmente la température de 1,5 degré. Et que c'était possible de ne pas augmenter, que les hommes peuvent rester sur cette planète et vivre en harmonie.
Honnêtement, les avis sont très partagés sur le sujet. Moi, je vous le dis franchement, je n'y crois pas. On est dans une situation où la communauté scientifique estime pour partie qu'on est au point d'équilibre, c'est-à-dire que si on stoppait aujourd'hui complètement notre croissance, nos émissions de gaz à effet de serre, de gaz carbonique, on pourrait effectivement revenir en arrière et revenir sur un climat comme celui qu'on connaissait dans les années 70, au moment où le Club de Rome lançait pour la première fois les cris d'alarme concernant le réchauffement climatique. Une autre partie de la communauté scientifique estime que, hélas, on a déjà dépassé ce point de non-retour. Il existe des boucles de rétroaction positive concernant le climat, notamment le fait que les glaces de l'Arctique fondent. En fondant, libèrent des surfaces sombres qui absorbent la chaleur au lieu de la refléter vers le ciel. Rien que ça, c'est déjà un point très inquiétant. Et d'autre part, lorsqu'on réchauffe l'atmosphère, on réchauffe l'océan, et l'océan, en se réchauffant, produit de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau est elle-même un gaz à effet de serre qui réchauffe l'atmosphère, qui réchauffe l'océan, etc. Donc, beaucoup de scientifiques estiment qu'il est déjà trop tard. Par contre,
mais on peut ralentir le phénomène, à la limite.
Voilà, absolument. Ce qu'on peut faire, c'est ralentir le phénomène, différer les échéances, et surtout, ce qu'on peut faire, c'est s'y préparer. Ça, c'est très important.
Alors, dans un quel monde, est le plan
sera pas demain, il y a des choses à faire. Eh bien, le plan, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau d'action politique. Là, ça passe par des réglementations. L'astrophysicien Aurélien Barreau estime que quoi qu'on fasse pour lutter contre le réchauffement climatique, il faudra qu'on accepte de perdre une partie de nos libertés individuelles.
Mmh. Ça ne va pas être évident. Et que tous les États votent pour ça aussi.
Non, ça ne va pas être évident, surtout dans des régimes qui sont, fort heureusement d'ailleurs, essentiellement démocratiques, et où les électeurs ne seront pas contents, bien sûr, si on les force à abandonner une partie de leur confort actuel.
Ça serait voyage par an en avion et utiliser sa voiture un jour sur trois, ça serait quoi, par exemple?
Ça pourrait être interdire complètement la circulation dans les centres-villes. À Marseille, où vous êtes, par exemple, j'en discutais lors de la conférence qu'on a donnée vendredi dernier avec le premier adjoint de la mairie du premier, le premier arrondissement. Il me disait qu'il y a un projet, un avant-projet éventuel pour rendre le centre-ville de Marseille piétonnier. Dans la plupart, en tout cas, des grandes capitales, je pense à Paris, mais aussi à Londres, et puis dans les grandes mégapoles, Shanghai, oui. etc., tout est organisé pour des transports en commun. Il suffit que les gens aient la volonté, et après on garde simplement les véhicules sanitaires, les véhicules de la police, des pompiers, enfin voilà, des choses de ce type-là. Mais la personne qui veut aller prendre sa baguette à la boulangerie, il faut qu'elle accepte d'y aller soit à pied, soit en transport en commun.
Bien sûr. Alors du coup, pendant ces conférences, vous allez justement exposer tout ça, donc le souci de l'écologie, cette mauvaise tendance, et puis toutes ces solutions et le plan à établir. Qu'est-ce que vous allez exposer dans vos conférences ?
Alors, d'une part, les problèmes. Les problèmes de la biodiversité marine, d'une part, qui sont liés à la surpêche, qui sont liés à la hausse des températures de l'océan. Quand on chauffe de l'eau gazeuse, bien, les gaz s'en vont, c'est la même chose pour l'océan. Vous faites partir le gaz carbonique dont le phytoplancton a besoin pour se développer. Eh bien, le phytoplancton, c'est la base de la chaîne alimentaire. Les poissons n'ont plus de quoi se nourrir, donc plus de poissons. Et lorsque vous faites chauffer l'océan, vous enlevez aussi une partie de l'oxygène dissous. Et là aussi, les poissons ont besoin, comme nous, comme vous, comme moi, d'un peu d'oxygène pour vivre. Et lorsque cet oxygène leur manque, ils s'en vont, voire ils disparaissent. L'association Bloom pense que non seulement on aura moins de poissons dans les prochaines années, il y aura des poissons moins grands, d'une taille moins grande, d'un poids moins important. C'est un réel problème. Aujourd'hui déjà, beaucoup d'espèces migrent vers le nord, vers des eaux plus froides.
D'ailleurs, c'est donc, même là, vous qui préconisez de ne plus manger de poissons, pas pour la douleur animale, mais justement pour que les océans se repeuplent.
Oui, absolument. Paul Watson, qui est le dirigeant de Sea Shepherd, de l'ONG Sea Shepherd, lui préconise carrément de laisser la mer se reposer quelques années. Je crois qu'il faut accepter de manger moins de poissons aujourd'hui. On pêche 93 millions de tonnes de poissons chaque année. C'est comme si on prélevait 1,5 milliard d'êtres humains chaque année sur la planète. C'est énorme.
Oui, effectivement.
C'est beaucoup trop.
Oui, c'est ça. Par habitant, on est à combien de kilos ? On est à 34 kilos pour les Occidentaux ?
Pour les Français, oui.
Oui, pour les Français, pour les Français.
Par an. 20 kilos en moyenne pour un terrien et 34 kilos pour un Français, c'est énorme. Quand j'étais gamin, je ne sais pas si vous en souvenez, vous aussi peut-être, on allait sur les autoroutes, on trouvait des sandwichs jambon beurre et puis des sandwichs au fromage parfois, mais on ne trouvait jamais des sandwichs au thon. Maintenant, le thon est devenu une denrée passe-partout. On le trouve dans des sandwichs, dans des boîtes de conserve, partout. Les espèces animales ne peuvent pas résister à une telle pression. Et ça, c'est vraiment un gros souci. Je pense qu'il faut partager équitablement les richesses de la planète, accepter que ceux qui n'ont pas de quoi se nourrir correctement puissent trouver de quoi pêcher. Et nous, par contre, accepter de redescendre dans des consommations de poissons plus raisonnables, surtout que les gens ne le savent pas toujours, mais le poisson est en train de devenir un aliment toxique. Donc, oui. Quand j'étais gamin, c'était bon pour la santé. Aujourd'hui, ça, c'est plus le cas.
Donc là, on a déjà deux recommandations que vous allez dire dans les conférences. Donc, ça sera diminuer votre utilisation de voitures et votre consommation des poissons. Autre chose ? En
oui,
solution facile et que nous, on ressorte aussi avec des informations et des actions à faire.
Bien sûr. Au niveau individuel, bon, on a parlé des voitures, mais on peut parler du chauffage aussi. J'ai des amis, voilà, bon, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais qui chauffent à 24 degrés leur maison en hiver. Ça n'a pas de sens. Une maison chauffée à 18 degrés, c'est largement suffisant. C'est même bien meilleur pour la santé. Et si on est frileux, ben on rajoute un pull, deux pulls, voilà, s'il le faut. Nos ancêtres faisaient ça, ils s'en portaient très bien.
Ouais, l'objectif, là, ça va être de rappeler les bases fondamentales de l'écologie, en fait, qu'on doit se rappeler, qu'on peut oublier, bien sûr.
Absolument. Il faut accepter de perdre un petit peu du confort qu'on a eu très récemment. Il faut se souvenir que l'énergie n'est vraiment devenue une chose extrêmement abondante qu'avec l'exploitation du pétrole au XXe siècle. Donc on peut très facilement revenir à des choses très saines et antérieures. Et puis d'autre part, au niveau de l'alimentation, on parlait du poisson, mais si on se penche vers des problèmes du climat, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre. On peut penser d'une part que le riz, ça pousse dans des rizières. Des rizières sont des marécages. Les marécages sont des émetteurs de gaz à effet de serre et de méthane en particulier. Et le bœuf aussi. On mange de plus en plus de viande de bœuf. Il faut savoir que les rots des bovins, c'est du méthane et qu'ils émettent des quantités non négligeables de gaz à effet de serre. Donc peut-être vaut-il mieux, alors je dis ça un peu en plaisantant, mais manger des spaghettis carbonara plutôt que du riz bœuf.
D'accord, pas mal pour les recommandations. On va retourner un peu sur le périple et on rappellera toutes ces règles et d'autres règles encore en fin d'émission. Mais on va se faire rêver aussi parce que c'est un beau périple, un beau challenge. Alors, comment ça va procéder ? Donc, vous allez partir pendant 5 ans avec un équipage de combien ? Vous allez rester les 5 années ? Comment ça va se dérouler ?
Alors, tout d'abord, l'équipage. On est aujourd'hui 68 membres du personnel navigant, plus quelques personnes qui resteront à terre, mais 68 membres qui allons par rotation de 4 à 5 mois nous relayer à bord du bateau pour animer l'expédition, faire les conférences, faire marcher le bateau. Je serai le seul permanent à bord, un petit peu le pivot autour duquel les choses vont s'articuler, et j'assurerai le relais entre les équipages.
Vous êtes le porteur de projet, c'est vous qui avez créé ce projet d'ailleurs.
Avec une petite équipe, effectivement, c'est un petit peu à l'origine du projet. À la base, je suis un alpiniste.
Oui.
En tant qu'alpiniste, j'ai vu malheureusement les glaciers fondre. Ça, c'est terrible. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vingtaine d'années, je faisais beaucoup de haute montagne, de l'alpinisme, du ski de couloir, des grandes voies glaciaires. Et je suis repassé il y a 15 ans de ça. Devant des couloirs qui avaient descendu à ski, couloir nord-est du Coup de Sabre, couloir nord du collège du Pelvoux, voilà. Ouais. Aujourd'hui, ce sont des falaises de pierre. Ouais. C'est très grave. La mer de glace, ces 10 dernières années, a fondu de 5 mètres en moyenne d'épaisseur. L'année dernière, elle a fondu de 11 mètres. 11 mètres, c'est énorme, d'accord, c'est un immeuble de 3-4 étages. C'est-à-dire c'est affolant la vitesse à laquelle se déroule la catastrophe climatique. Donc tout ça m'a donné envie d'agir pour la planète, pour ses habitants aussi. Il faut bien dire ce qui est. Donc c'est
bien sûr.
Très égoïste.
Et c'est votre premier pas écologique ou vous aviez déjà une action, c'est un processus ? Parce que là, c'est quand même une très belle action, une durée dans le temps, un investissement de l'énergie, un très gros budget aussi, on en parlera.
J'avais déjà eu des actions écologiques, mais à mon niveau personnel, c'est plus dans ma manière de vivre, dans la gestion des déchets, dans mon attitude sur les sentiers de randonnée ou sur les eaux, sur des bateaux. Voilà, c'est plus une dimension personnelle. Là, c'est la première fois que je m'engage dans un projet de cette taille. Il faut dire aussi que des projets de cette taille, ça court pas les rues. Il y en a pas beaucoup.
C'est clair. Pas heureusement, mais c'est sûr que c'est un très beau projet. Vous avez une levée de fonds de combien pour d'ailleurs 5 ans et...
Le budget total de l'expédition, tout compris, c'est 1 183 000 euros.
Là, on va parler de ça un peu pour inspirer. Hein. L'objectif, c'est pour tout auditeur qui a un rêve, une envie d'améliorer le monde et de la concrétiser, comment il organise ça, quoi. C'est un peu ça, les objectifs de ces questions. Qu'est-ce que vous diriez à ce moment-là pour donner envie aux jeunes ou aux moins jeunes, hein ?
Je dirais que il faut rêver sa vie. À la base, il faut rêver sa vie. Et lorsque vous avez fait des beaux rêves, il faut vous accrocher pour les réaliser. C'est ce que je dirais aux jeunes, c'est ça. Rêvez. N'attendez pas que les choses se présentent à vous. Rêvez, imaginez. Quelqu'un a dit un jour, il faut rêver aux étoiles. Même si on ne les atteint pas, on décrochera la lune.
Ouais.
Voilà. Il faut avoir des grands projets.
Bah oui, là, ça. Par exemple, un gros projet comme ça, il s'est organisé en combien de temps ? Là, on est en janvier 2019, l'idée a germé quand ? Ça va se concrétiser en avril-mai, c'est ça ?
Rappelez-moi les dates. Ça fait déjà 3 ans et demi que je travaille sur ce projet avec mon équipe. Là, on a pris un petit peu de retard. L'expédition devait quitter Gibraltar le 31 mars. C'est la date qu'on avait prévue. On est amené à la repousser un petit peu. Je vous cache pas que sur le budget d'1 183 000 euros, il nous manque encore une petite somme, c'est pas énorme, 150 000 euros pour prendre le départ. Donc tant qu'on n'a pas réuni cette somme, on est pour l'instant cloué au port, hein, tout bonnement.
Ouais.
Heureusement, voilà, ça n'est pas une somme pharaonique, c'est pas qu'un très très gros budget.
Oui, finalement, c'est moins de 10% par rapport à votre budget total. Vous disiez que c'était une levée de fonds, finalement. Parce qu'on n'a pas la notion, nous, en tout cas moi, en tant qu'individuel et qui n'ai jamais réalisé de si grands projets, 150 000, c'est une certaine somme. Mais en fait, une entreprise peut donner ça pour un tel projet.
Oui, alors je vois parmi nos sponsors, une petite entreprise va donner 2 000, 3 000 euros, sur laquelle elle récupérera d'ailleurs les deux tiers en crédit d'impôt. Mais par contre, pour une grosse entreprise ou un grand groupe, voilà, c'est juste un contrat. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait dans ses cordes. Je pense au groupe Thales, à Veolia, des gens comme ça. Voilà, il y a aucun souci pour eux. Il suffit simplement qu'ils accrochent sur le projet, que ce projet tombe dans leur stratégie. C'est pas le cas de toutes les grandes fondations. Mmh. Par exemple, la Fondation Orange, eux se spécialisent dans le social et dans le local. Mmh. Et nous, malheureusement, on n'est pas dans le local.
Donc, pas vraiment.
Voilà. Mais donc, on continue à taper un petit peu à toutes les portes. Et puis, voilà, bon, c'est juste une question de temps. Je pense qu'on est en train de prendre à peu près 2 mois, 3 mois de retard sur le départ de l'expédition.
Oui, bon, c'est pas grand-chose. Ça arrive. Et aussi, pour vous faire financer, vous disiez que vous allez avoir, par exemple, à prendre des données pour certaines entreprises. Ça a pensé, par exemple, je ne sais pas, le nombre de déchets plastiques, faire une cartographie des déchets plastiques ou je ne sais plus quel exemple vous nous disiez.
Alors, ça, ce ne sont pas pour des entreprises, ce sont pour des grands laboratoires.
Ouais.
Ça fait partie de notre volet scientifique. On va procéder à des recherches de deux façons. La première, c'est très traditionnel. On va embarquer avec nous des scientifiques avec une mission. Ils sont issus d'un laboratoire de recherche. Ils vont venir à bord avec leur matériel, y travailler 2 semaines, 3 semaines et repartir. Une deuxième façon de travailler, et ça correspond à ce que vous pensez, on a des grands laboratoires comme le laboratoire L'Océan à Paris qui nous confient du matériel et des protocoles, des modes d'emploi, à charge pour nous d'utiliser leur matériel en respectant les modes d'emploi, bien sûr, et ça va nous permettre de recueillir des données. Ces données, on va les leur envoyer à Paris, et là, ils vont en faire ce qu'ils voudront. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'analyse de données, du traitement de données. Et ça leur servira à établir des modèles climatiques. En particulier, je pense à des modèles concernant le Gulf Stream et son évolution avec le réchauffement climatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des sciences participatives. Et là, ce sont des citoyens, c'est moi, c'est vous, ce sont tous les membres de l'équipage, qui allons faire ce recueil de données. Ça permet à la science de bénéficier de bras pour des tâches qui ne demandent pas une spécialisation ou des connaissances extraordinaires. Ce qui est vraiment important pour les scientifiques, c'est le traitement des données. Là, ils ont les compétences, le matériel et les connaissances. Mais pour ce qui est du recueil de données, ce sont des bras qu'il faut. Et les bras, c'est nous qui les avons.
D'accord. Et est-ce que, du coup, donc vous avez vraiment une volonté personnelle pour le projet de sensibiliser la population, mais est-ce qu'il y a aussi un objectif pour récupérer les données, mais niveau pour le projet, en fait, pas pour d'autres labos?
Non, pour le projet lui-même, non.
Non, c'est vraiment un projet de sensibilisation, hein.
Oui, essentiellement. À 20%, on est un projet scientifique. À 1%, 2%, on a un volet bande d'essai et vitrine technologique pour des innovations visant à décarboner le transport maritime, par exemple, ou à limiter dans d'autres secteurs les émissions de gaz à effet de serre. Mais à 80%, on est vraiment une expédition pédagogique. Le but, c'est vraiment de sensibiliser les adultes, les élus locaux, les jeunes dans les collèges et les lycées à ces deux messages fondamentaux. Le premier, c'est sauver la biodiversité marine, sinon une partie de la planète va mourir de faim. Et le deuxième message, c'est lutter contre le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique, surtout pour des gens qui se trouvent le long des côtes, eh bien derrière, ce sont des inondations, des cyclones, c'est quelque chose qui est vraiment terrible.
Des déplacements de population. On va faire une petite pause musicale, là, et vous allez nous reparler bien précisément de tous les enjeux, parce qu'on n'en a pas la notion, même si on en parle souvent. vous avez des chiffres et une évolution assez précise. D'ailleurs, on va parler de votre métier de base pour avoir toutes ces connaissances. Mais pour l'instant, on va écouter votre chanson que vous avez choisie. Vous pouvez la citer et pourquoi vous l'avez choisie ?
Ah, Santiano. On m'a demandé une, ouais. une chanson plus maritime. Donc Santiano, ça me paraissait bien. Ça reprend bien les chants de marins et les choses de ce type-là. Non, c'est très bien.
Ouais. Bon, on va partir. Alors, ben, merci et à tout de suite. Bonne écoute.
Femme trois-mâts, fin comme un oiseau, il s'est haut, Santiano, 18 400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent, il s'est haut, Santiano, si Dieu veut que je croise devant. En laissant Margot, Iseo, Santiano, y penser, j'avais le cœur gros, en doublant les feux de Saint-Malo. Bien bon la vague et bien bon le vent, Iseo, Santiano, si Dieu veut que je croie devant, nous irons jusqu'à San Francisco. On trouve l'or au fond des ruisseaux. J'en ramènerai plusieurs lingots. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano, si Dieu veut que je crois devant, nous irons jusqu'à San Francisco.
Un jour je reviendrai chargé de cadeaux. Je passerai l'anneau. Hey tiens bon la vague et tiens bon le vent. Iseo, Santiano, sur la mer qui fait le vent, nous irons jusqu'à San Francisco.
Bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne écoute et vous êtes remonté à tous les souvenirs qui évoquent cette musique. On a tous écouté. Alors voilà, c'était en thématique de l'émission parce que ce soir on est avec Philippe Ben-Simon et on parle d'un super projet qui va durer 5 ans, qui va faire le tour des deux Amériques, où il va sensibiliser en même temps la population sur les ravages de la population sur la mer et trouver des solutions. Voilà, l'objectif principal, c'est toujours la même chose, trouver des solutions pour améliorer notre futur. Si vous avez la moindre question, appelez-nous au 04 91 08 28 15 08 28 15. Alors bonsoir, vous êtes toujours là ?
Oui, bonsoir et merci d'avoir passé Santiano. C'est une chanson qui reprend beaucoup de l'univers des marins, à la fois l'espoir, la découverte, le risque, les regrets aussi, la nostalgie. C'est très, très sympathique de l'avoir passé. Merci beaucoup.
Bah avec grand plaisir, c'était votre souhait et ça me fait plaisir parce que nous aussi, on a tous une histoire avec Santiano, quoi. Et je suis contente que même chez les marins, ça soit pas désuet, en fait, que ça soit pas du commercial pour nous extérieurs. Donc, ça me fait plaisir aussi. Alors, nous allons reprendre. On était justement sur l'objectif qui était de sensibiliser. Qu'est-ce que vous voulez que les personnes sortent après vos conférences ? Quelle est pour vous l'idée principale qu'on sorte après avoir vu une conférence de votre part, qui sera d'ailleurs en anglais sur place, ou même comment vous allez faire d'ailleurs pour le langage ? Bon, on va d'abord répondre à la première question. Pour vous, vous voulez qu'on sorte avec quelle idée en sortant de vos conférences ?
Que le réchauffement climatique, c'est pas simplement le bonheur en hiver de prendre un café sur la terrasse alors qu'il fait chaud. Voilà. C'est une véritable horreur dont les gens en Europe n'ont pas franchement conscience. Le réchauffement climatique en 2016 avait déjà chassé pratiquement 25 millions de personnes de chez elles. C'est catastrophique. En 2050, l'ONU s'attend à 250 millions de migrants climatiques. Vous imaginez la population entière des États-Unis face de chez elle un beau matin, qui a tout perdu, son travail, sa maison, qui part avec un bas du sang sur le dos, sur la route de l'Exode, avec souvent la mort au bout. C'est quelque chose qui est dramatique, le réchauffement.
Ouais, ça, c'est hyper intéressant de vraiment appuyer sur ça, parce qu'on a, en tout cas, moi, personnellement, j'en avais absolument pas la notion, on n'en parle pas assez de ce côté-là. Voilà, on va parler de la fonte des glaces, de la pollution, mais on réalise pas que en fait par exemple toute l'Afrique centrale va être complètement désertique et qu'il y aura plus de possibilité d'y vivre, et que là c'est là où on parle des plus gros déplacements de population.
Pas uniquement.
Ah non,
vous avez raison, les pays qui sont déjà aujourd'hui très secs, l'Afrique subsaharienne par exemple, vont devenir de plus en plus secs. Donc déjà aujourd'hui, on a des problèmes d'aridité en Afrique subsaharienne très importants, et on enregistre déjà des flux de migration importants qui remontent vers l'Afrique du Nord, vers les pays du Maghreb. On a un durcissement d'ailleurs aujourd'hui de la politique migratoire au Maroc. Et ces migrants, on les retrouve déjà à nos portes. On les retrouve déjà en Méditerranée, malheureusement bien souvent sous forme de cadavres. L'ONU vient de publier ces jours-ci une statistique. 2000 morts en Méditerranée noyés en 2018 sur des embarcations de fortune. Des gens qui ont tout perdu et pour qui, de toute façon, ils savent qu'ils courent des risques, qu'ils mettent leur vie en jeu. Mais comme ils ne peuvent plus rester chez eux, eh bien, ils tentent le coup. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et là, on en est vraiment qu'au tout début du réchauffement climatique. Donc il y a ces zones très sèches, mais il y a aussi des endroits, je pense au Bangladesh, par exemple, qui est un pays qui est très bas sur l'eau, altitude moyenne 1,5 mètre. Aujourd'hui, le Bangladesh, avec la hausse du niveau des eaux, lié à la fonte des pôles et puis à la dilatation des océans, est en train de se transformer en un vaste marécage. Donc ces populations vont remonter elles aussi vers le nord. Il y a vraiment des gros problèmes. Et par contre, à l'inverse, vous avez des zones qui sont déjà des zones très humides, qui vont devenir de plus en plus humides, de plus en plus inondées. Ça, c'est l'accélération du cycle de l'eau. L'eau des fleuves, notre eau douce, se jette par l'intermédiaire des fleuves dans les océans. Et à partir de là, s'évapore, devient des nuages poussés par le vent. Ça arrive au-dessus des continents, ça se transforme en pluie qui repart au fleuve, etc. Ce cycle, qui est un cycle très naturel, avec le réchauffement climatique, va aller en s'accélérant. Et les endroits qui bénéficient déjà de pluie vont se retrouver avec de plus en plus de pluie. Ça, c'est aussi un réel souci, parce que les sols ne sont pas du tout prévus pour absorber des précipitations beaucoup plus importantes, et l'homme a tendance en plus à les imperméabiliser avec du goudron, du ciment, enfin voilà, des routes, des autoroutes et des villes. On va avoir vraiment des gros problèmes en termes d'inondations, et là, ce sont des choses qu'il faut se préparer à gérer aussi. Sans compter la hausse du niveau des eaux, qui oui. Simplement parce que les eaux montent, est en train de rogner notre littoral. L'île de Léron a perdu 300 mètres de côte en l'espace de 10 ans. C'est énorme.
Oui, bien sûr. Et du coup, vous allez aborder tous ces sujets par le biais de conférences, vous allez aborder en quelle langue? Comment ça va passer pour la barrière de la langue? Parce que là, vous allez, je ne sais pas combien de langues vous allez traverser, mais il y en a pas mal quand même hein, sur ce parcours.
Nous avons la chance, en fait, qu'elles ne sont pas si nombreuses que cela. On aura besoin du français, par exemple, quand on sera au Québec, dans certains pays des Antilles ou en Guyane, de l'anglais. Ça, c'est dans une partie du Canada, aux États-Unis. Et puis, pour le reste, on aura le portugais du Brésil au Brésil et de l'espagnol partout ailleurs. Donc, avec ces quatre langues, dont on va dire deux qu'on est censé maîtriser à peu près, c'est-à-dire le français et l'anglais, on va déjà faire une énorme partie du périple. Et pour les deux autres, l'espagnol et le portugais du Brésil, on a déjà à bord de l'expédition beaucoup de gens qui parlent l'espagnol couramment.
D'accord.
Et au niveau du portugais du Brésil, on sera sans doute amené à prendre un traducteur local.
D'accord. Donc c'est vous qui allez vous charger de l'anglais et du français ?
Oui, absolument. Mais il n'y aura pas que moi. L'idée, c'est que l'ensemble de l'équipage prenne part à ces conférences, chacun prenant en charge une petite partie des problèmes qui malheureusement sont très nombreux liés au réchauffement climatique. Je pense à la fonte du pergélisol, je pense aux cyclones qui vont être de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Voilà, des choses de ce type-là. L'itinéraire des cyclones, par exemple, est en train pas de se modifier, mais simplement leur itinéraire normal, je prends deux secondes, c'est de partir au début sous forme de vent, puis de tempête tropicale, des hauts plateaux de l'Éthiopie, traverser vers l'ouest l'Atlantique, passer au-dessus de l'Afrique, et puis arriver aux Caraïbes, dans le golfe du Mexique. Là, ça devient vraiment des ouragans très violents, dont on parle à chaque automne aux actualités. Mais ensuite, ça remonte vers le nord jusqu'au Cap Hatteras. De là, ça revient, ça reconfait une nouvelle transatlantique, mais vers chez nous. Et on a vu, par exemple, le cyclone Florence, qui a dévasté cet automne la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie. On l'a vu arriver, c'était fin octobre, en Normandie, avec des vents de 130 km/h, elle a traversé les Ardennes ensuite, et on a enregistré des pointes à 144 km/h dans le Haut-Rhin.
Voilà. L'année dernière, il a changé tous les pronostics. C'est le premier ouragan à casser les codes.
Non, on avait déjà eu, il y a deux ans, à l'automne 2017, Ophélia. Ophélia était le premier... des premiers, justement, ouragans à être passé entre les Açores et le continent européen et à remonter directement sur l'Irlande où il a fait trois morts. L'Irlande, ce n'est pas le pays des cyclones, normalement. Donc, trois morts en Irlande avant de traverser l'Écosse et d'aller se fondre dans une dépression en mer de Norvège. Ça, c'est des choses inquiétantes. Ce cyclone qui passe entre les Açores et le continent au lieu de passer beaucoup plus à l'ouest, ça traduit en fait l'augmentation de 2 degrés, simplement de 2 degrés de l'Atlantique Nord à l'automne 2017.
Et est-ce que les conférences seront aussi précises? Parce que c'est quand même là assez technique, il faut avoir des, connaître le sujet sur les ouragans. Parce que votre population, c'est une population de ville, vous n'allez pas spécialement sélectionner. Justement, l'objectif, c'était qu'il y ait un public le plus large possible et ne pas prendre des personnes qui connaissent déjà l'écologie, qui ne sont pas sensibilisées. Est-ce que vous allez pouvoir parler de cette manière des cyclones ?
Peut-être parce qu'on sera amené à donner plus d'exemples locaux.
Oui, bien sûr.
Il y a des choses auxquelles les gens sont sensibles, ça les touche très particulièrement. Comme je vous disais que quand on chauffe l'eau, elle perd son oxygène. Les ostréiculteurs de l'étang de Thau, par exemple, l'ont vécu début août. L'étang de Thau est monté à 30 degrés. 30 degrés, il n'y a plus assez d'oxygène dans l'eau pour faire vivre les mollusques. Ils ont perdu en l'espace de quelques jours la totalité de leurs huîtres et la moitié de leurs moules. C'est la moitié de leur chiffre d'affaires annuel qui a disparu en quelques jours. Là, ce sont des mots simples. Quand on dit aux gens, vous risquez de perdre en l'espace de 3-4 jours la moitié de votre chiffre d'affaires annuel. Là, il commence à être sensible.
Et puis c'est de la région, on comprend, voilà. Et puis on est solidaire des personnes travaillant à côté de chez nous. C'est plus simple, en tout cas, de comprendre la souffrance.
Bien sûr. De la même façon, si vous parlez aux gens qui sont sur les côtes atlantiques des États-Unis, les problèmes des ouragans, même si à une époque, Donald Trump a pu dire que c'est la colère de Dieu ou des choses comme ça, bon, ils se rendent compte que, quelles qu'en soient les causes, ils perdent de véritables fortunes. À une époque pas si éloignée, l'idéal pour les gens à Miami, c'est d'avoir leur petit bungalow, une pelouse qui descendait dans l'eau, le ponton au pied de la pelouse et leur bateau amarré au ponton. Aujourd'hui, avec les cyclones à répétition chaque année, ces villas ont perdu le tiers de leur valeur. Et maintenant, à Miami, les quartiers qui reprennent de la valeur sont les quartiers des anciens quartiers portoricains situés plus en hauteur, parce que les gens ont peur. Aujourd'hui, ils savent que les inondations, chaque année, vont se répéter.
Ouais, du coup, ça va être très intéressant, mais des conférences assez techniques, parce qu'il faudra vraiment connaître bien la région à chaque fois pour sensibiliser, sensibiliser votre population. À chaque endroit, vous allez essayer d'avoir des exemples concrets.
Oui, il faut parler aux gens de problèmes locaux. Si on leur parle de problèmes qui ont lieu à l'autre bout du monde, comme cela se fait malheureusement depuis pas mal d'années, bien les gens ne sont pas très sensibles. Ils se disent « oui, c'est intéressant, mais finalement, ça en touche d'autres, nous on est à l'abri, etc. » Non, il faut vraiment dire aux gens le réchauffement climatique, d'abord c'est pas demain, c'est dès aujourd'hui, et puis regardez ce que ça donne chez vous, les problèmes que vous avez. On a, par exemple, en Méditerranée, qui n'était pas un endroit de cyclone habituellement, on a créé cette année un nouveau terme, Medicaine, calqué sur le hurricane, les ouragans américains, pour caractériser ces cyclones en Méditerranée. On en a vu un qui a ravagé le golfe de Corinthe et puis le nord du Péloponnèse. Durant l'automne. Voilà, donc c'est des choses maintenant qui commencent à nous toucher. On voit par exemple remonter chez nous des insectes inhabituels. Le moustique-tigre par exemple. Alors on dit oui, il est arrivé par avion, c'est juste, mais il ne se serait pas plus chez nous, il ne serait pas resté. Voilà. S'il est resté, c'est passé parce qu'il s'y plaît bien. J'ai fait une conférence à Grenoble. À Grenoble, ils ont des moustiques-tigres, donc ce n'est pas uniquement le sud de la France. Et en ce moment, dans les Pays de Loire et en Normandie, ils s'attendent d'ici quelques années à voir remonter le moustique-tigre avec le chikungunya, etc. Donc c'est on est directement tout fait, mais il faut donner aux gens des exemples locaux, vraiment de ce qui se passe.
Vous avez bien raison. Est-ce que vous pouvez donner, bon, vous en avez déjà donné deux, mais un troisième exemple pour la ville de Marseille?
Ah, mais pour la ville de Marseille,
petit challenge.
La hausse. La hausse du niveau des eaux est très importante. J'étais sur le vieux port en train de me balader un peu avant la conférence de vendredi et je suis passé à côté de l'Ilienne. Hein. Vous voyez tous, c'est ce gros bateau qui est amarré au pied de la Canebière sur le vieux port. La hauteur entre le niveau de l'eau et le quai ne dépasse pas 60 cm. Or, on a déjà gagné en un peu plus d'un siècle, 80 cm de hauteur d'eau, et on s'attend, suivant les estimations, à gagner entre 1 et 4 mètres de hauteur d'eau d'ici la fin du siècle. Même simplement 1 mètre, estimation très, très optimiste, ça suffit à ce que les gens sur le vieux port aient les pieds dans l'eau. Donc ça, c'est un très gros problème. Pour la plupart d'ailleurs des ports qui ne sont pas du tout prévus pour résister à une telle hausse, même des choses faites très récemment.
Et il n'y a aucun projet, par exemple, sur la ville de Marseille pour faire face à ça, à l'heure actuelle.
Pas à ma connaissance.
Ouais. Quand on a discuté avec l'élu, il n'était pas au courant. Dans mon souvenir.
Être au courant, il est au
courant. Oui, mais qui est une action qui allait être faite sur le port.
Non, pas pour le moment.
Un projet.
Mais bon, cela dit, on a encore du temps. Voilà. Ça, ce sont des projets sur le long terme. On ne va pas gagner un mètre d'ici l'année prochaine.
Oui, bien sûr.
Mais simplement, ce sont des nouvelles normes d'urbanisme, des nouvelles actions de consolidation de ce qui existe déjà, de rehaussement, qu'il faut prévoir. Il faut déjà avoir dans l'idée que demain ne sera pas la même chose qu'aujourd'hui, qu'on aura au minimum un mètre d'eau en plus, et peut-être plus, qu'on aura un changement du climat, des vents de plus en plus violents, Avec ces vents et ces ouragans, on aura droit à ce qu'on appelle des vagues de tempête, c'est-à-dire une vague assez haute qui se promène généralement sur le côté droit de l'ouragan.
Ça du peut
coup, 80 mètres de haut. Voilà, donc
en premier lieu,
prévoir tout ça.
Vous allez nous effrayer et après nous donner les solutions en comportement individuel. Mais maintenant, en groupe, qu'est-ce que vous nous proposez pour vous aider, vous, votre projet ou quelque chose de plus grand à part les changements individuels? Parce que là, on est vraiment...
Bien sûr, il y a des changements collectifs qu'il faut faire. Ça repose sur les élus. Mais les élus ne sont que les représentants du peuple. Donc avant tout, il faut que les gens, vous, moi, prenions conscience justement de ces problématiques et de la nécessité qu'il y a à agir. Alors après, en termes d'action, ces actions sont multiples. On parlait de protéger la biodiversité marine. À Marseille, on a construit des récifs artificiels. Vous savez que les coraux sont en train de mourir, victimes de la pollution, mais aussi du réchauffement. Un degré d'écart dans l'océan suffit à tuer des coraux.
Mais c'est excellent ce que vous dites. Vous savez que c'est l'introduction pour la prochaine émission. On ira justement à la conférence, à l'exposition qui aura lieu à la mairie du 1er et 7 sur la Canebière. Et merci. Mais c'est vrai qu'on est très peu au courant, les Marseillais, qu'il y a ce récif de corail qui est juste au niveau du Prado. C'est ça, en face du Prado.
Il est compris dans un triangle entre les îles du Frioul, le Château d'If et le Prado. Elle s'appelle la Rade du Prado. Et c'est le plus gros projet européen en la matière. Allez voir, c'est vraiment un travail magnifique qu'ont fait les Marseillais pour protéger la biodiversité marine. Alors c'est à la fois catastrophique de penser que les coraux meurent et qu'on est obligé de les remplacer par un habitat artificiel pour les poissons. Mais c'est mieux que rien. En tout cas, c'est remarquable comme travail. Là, il faut vraiment féliciter la ville de Marseille pour ça. C'est vraiment extraordinaire. Donc, il y a des choses comme ça qui doivent être faites au niveau collectif, au niveau local. On parlait de rehausser les installations portuaires, par exemple, des choses comme ça. Et puis aussi, vous pouvez aider à titre, soit au titre de votre entreprise, de votre fondation, ou à titre d'individu. Vous pouvez aider justement toutes les expéditions scientifiques et pédagogiques comme la nôtre, mais je pense aussi Tara Expédition, par exemple. Voilà.
Comment vous aider d'ailleurs?
Eh bien, c'est très simple. Allez sur notre blog americvoilier-expedition.org ou tapez sur Google expédition Tour des Deux Amériques. Voilà, vous allez tomber directement sur nous. En bas de la colonne de droite, vous aurez l'adresse de notre siège opérationnel, 27 Grande Rue, 3990 Cousances. Et là, vous envoyez un chèque. Ça peut être un petit chèque, aucun souci. Et vous aurez en contrepartie un reçu fiscal.
Une
association d'intérêt général.
Est-ce qu'on peut venir vous aider personnellement en action? Est-ce que vous avez besoin, d'une personne pour faire un site ou de personnes pour nettoyer le bateau? Je ne sais pourquoi. Vous pouvez faire un appel à l'heure actuelle. C'est une porte ouverte.
Eh bien, je vous en remercie. Oui, effectivement, on a besoin d'aide pour tout ce qui est réseaux sociaux. Je vous le cache pas, on est nul au niveau des réseaux sociaux, Twitter, par exemple, on est mauvais au niveau de Facebook. On a besoin de webmasters vraiment jeunes, compétents, dynamiques pour nous aider sur les réseaux sociaux. On a besoin aussi de bras pour nous aider dans la recherche de fonds. C'est du funding, hein, tout bonnement. C'est vraiment très simple, ça ne demande pas des grosses compétences, mais par contre, c'est du temps. Donc, si vous pouvez nous donner un peu de votre temps pour nous aider, passez-nous un petit coup de fil, la même chose, et toutes nos coordonnées
sur
le blog.
Site,
voilà, absolument. Ça, c'est très important. Et après, si vous avez envie de naviguer avec nous, il y a des conditions d'embarquement. On sera ravis de vous avoir à bord aussi. Il y a encore de la place, 5 ans d'expédition. Pensez bien, vous pouvez très facilement venir passer quelques mois avec nous à bord. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il faut simplement que vous aimiez la mer et que vous aimiez le travail aussi, parce que je ne vous cache pas que ce ne sera pas de la croisière s'amuse, mais durant 5 ans, ce sera un vrai travail.
Vous voulez un certain niveau en voile. C'est juste ça qui est demandé.
Non, même pas.
Même pas. D'accord.
Même pas. On formera les gens de A à Z. On avait déjà commencé sur des croisières d'entraînement à les former. Mais si vous embarquez sur le bateau de l'expédition avec un niveau zéro, on vous formera. À la fois en français et en anglais, parce que bon, le vocabulaire maritime en anglais, c'est très important de connaître. Et par contre, la seule chose qui nous ennuierait, c'est que vous ayez le mal de mer. Voilà. Ça, c'est
Mais ouais, tout le marin a un jour le mal de mer.
Oui, absolument, mais vous avez parfaitement raison. Mais il y a 5% des gens qui n'ont jamais le mal de mer, on ne sait pas pourquoi. Voilà, les scientifiques ne savent pas pourquoi. Il y a 5% de gens qui ont toujours le mal de mer. Vous les mettez sur un bateau dans le Vieux-Port, ils ont le mal de mer avant même d'avoir largué les amarres. Et 90% des gens, ils seront comme moi, par exemple, à partir d'un certain niveau de vague, d'un certain niveau de vent, quand ils seront secoués avec une certaine force, là, ils vont finir par avoir le mal de mer. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas que le mal de mer soit pour vous quelque chose de rédhibitoire, il ne faut pas que ça vous gâche la vie. Il y a des gens comme moi, c'est pas très c'est pas très sexy ce que je vais vous dire, mais il y a des moments où j'ai juste 5 minutes pour aller faire le point sur la table à cartes. Je sais qu'au bout de 5 minutes passées dans le carré à travailler, ça sera la tête dans l'évier. Voilà. Et je le sais, et ça me fait rigoler, parce que je le sais, je dis à l'évier, à tout à l'heure, dans 2 heures, on revient faire le point, tu m'attends, voilà. Mais à côté de ça, il y a des gens qui se mettent dans leur cabine, ce qui est le dernier endroit où se mettent quand on a mal de mer, qui appellent leur mère en disant « Maman, viens m'achever, c'est trop dur. »
Petites anecdotes de bateau. On va bientôt toucher la fin de l'émission, donc on va faire le dernier appel. Donc si vous êtes web designer ou vous connaissez les réseaux sociaux, vous faites un appel. Et bien sûr, si vous avez envie d'embarquer directement sur le bateau, vous pouvez, même si vous n'avez aucune connaissance. Donc, par contre, c'est un minimum de temps de 3 mois. Hein. C'est bien ça.
On préférerait 4 ou 5 mois.
Ah, 4
Pourquoi
ou 5
Parce
mois.
Il faut former des gens.
Bien
il faut
sûr.
Former des gens, les acclimater, on va les faire participer aux conférences. Donc, il y a un travail de formation qui est assez important. Si les gens viennent simplement pour quelques semaines et repartent après, c'est un petit peu dommage d'avoir passé tout ce temps. Et au moment où ils sont vraiment intégrés et efficaces, les voir repartir. Voilà. 4-5 mois pour nous, c'est bien. Si vraiment c'est 3 mois,
bien. Alors là,
bonnes volontés sont les bienvenues.
On va être sur le mot de la fin. Donc merci beaucoup d'avoir été présent par téléphone. Merci à Sidi d'avoir organisé tout ça, d'avoir un son parfait. On a l'impression d'être à côté, d'être avec les auditeurs. Donc c'est au top. Mais surtout, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous voulez Comment vous voulez nous impacter pour ces derniers mois?
Alors, je dirais. Prenez conscience vraiment qu'il y a une urgence sur le réchauffement climatique. Et pensez à 250 millions de migrants à l'horizon 2050 chassés de chez eux. Ça sera peut-être vous un jour. Donc pensez-y. Accueillez-les. Aujourd'hui, on fait un sort catastrophique aux migrants. Pensez que là, on est juste face à quelques centaines de milliers de migrants. Pensez que d'ici 2050, on va avoir un flux migratoire qui va arriver en Europe. Et là, ce sera des dizaines et des dizaines de millions de migrants. On ne pourra pas décider de les parquer dans une
concentration
ou de faire un génocide.
En l'espace de combien de temps?
D'ici quoi? D'ici 2050, on a 30 ans. Et ça va aller en s'accélérant. Donc aujourd'hui, vous voyez quelques centaines de milliers de migrants, 1 million accueillis en Allemagne, mais on va dire dans les années à venir, c'est une courbe qui va aller en s'accélérant, c'est une courbe exponentielle. Donc en 2050, l'ONU estime à 250 millions le nombre des migrants climatiques chassés chez eux sur la planète. Allez, ceux qui sont en Arizona et au Texas vont aller au Canada, ceux qui sont au Bangladesh ou en Inde vont monter au nord de l'Europe, mais tous ceux qui sont en Afrique, ils vont aller en Europe, c'est clair.
Et on va partir sur une petite pointe positive. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ou choisissez votre pointe positive pour finir en beauté.
Je dirais changer votre point de vue par rapport aux migrants. Les migrants sont des êtres humains. Voilà. Ce sont des êtres humains avec de la valeur. Ce sont des gens qui consomment aussi, donc qui créent des emplois, qui créent de la valeur chez nous. Et on a toujours été, la France a toujours été une terre de migration et une terre d'accueil. Il faut que ça le reste. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. À l'horizon de 2050, on ne peut pas faire autrement.
Parfait. Ben, merci. On a pris un tournant dans l'émission et merci beaucoup de rappuyer sur ça parce qu'il faut en parler et c'est bien dans ce contexte. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous de m'avoir accueilli.
C'était un grand plaisir. Une excellente soirée. Au revoir. We'll be right back.